Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et c'est une petite révolution dans le monde des chercheurs et des curieux. Les archives nationales déménagent, en tout cas en partie. Alors les documents antérieurs à la Révolution française vont rester en effet au cœur de Paris, dans les locaux historiques du Palais Soubise. Mais tous les autres, c'est-à-dire ce qui est postérieur à 1789, s'en vont au nord de la capitale, dans des locaux tout neufs. Et Franck Ferrand nous en dit évidemment davantage sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Si j'osais, je dirais que c'est un peu de notre mémoire à tous qui déménage à Pierrefitte, en Seine-Saint-Denis, près de l'université de Saint-Denis. Parmi les centaines de kilomètres de rayonnage de documents qui ont quitté le Marais pour regagner la banlieue nord, il y a aussi bien alors toutes sortes de choses, les menus de l'Élysée sous Félix Faure, des photos d'identité judiciaire, de très sensibles dossiers de naturalisation, des lettres ou des actes officiels signés par de grands personnages mais aussi par de petits. Quand je dis de grands personnages, c'est tous les plus récents, Napoléon, Clémenceau, De Gaulle et tant d'autres moins célèbres.
Et vous allez profiter de l'occasion pour nous parler de ces véritables mines de papier où les historiens vont chercher leurs pépites, les fonds d'archives.
Et oui, les fonds d'archives de toutes sortes, car il en existe de nature et de statut bien différents. Vous savez, il y a les fonds d'archives publics et puis les privés, certains privés en dépôt dans des fonds publics. Il y a des fonds dépouillés, indexés, extrêmement bien inventoriés, et puis d'autres qui sont en pleine friche, j'en connais. Des fonds consultables et des fonds réservés, voire interdits. Nous allons évoquer toutes les questions que cela pose en compagnie de deux grands responsables des archives nationales. Autant dire que d'ici à une petite heure, les cartons, les séries, les fantômes et les girafes n'auront plus aucun secret pour vous.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Permettez-moi, une fois n'est pas coutume, de vous raconter quelques souvenirs personnels glanés dans les fonds d'archives. Il se trouve que j'ai commencé très tôt à fréquenter ces lieux de perdition. À 11 ans, figurez-vous, en 5e, avec mon camarade Sébastien, nous nous étions portés volontaires auprès de notre prof d'histoire-géo pour l'aider à dépouiller aux archives départementales de la Vienne des registres de foires et marchés. Faut que vous imaginiez de gros, pour nous à l'époque, on était petits, c'était de très gros volumes aux feuillets rigides, gondolés, tout tachés, dont les pages épaisses crissaient quand on les tournait. Ce qu'elles contenaient, avouons-le, n'était pas très passionnant, mais je me souviens de l'ébahissement que j'éprouvais, j'avais donc 11, 12, 13 ans, à ouvrir ces registres dont certains n'avaient pas été consultés depuis très très longtemps et à lire ce qu'y avait inscrit patiemment de leurs mains plus ou moins appliquées des personnes mortes depuis des siècles. Je mettais mon doigt, je me rappelle, sur le tracé de leurs plumes. L'authenticité de ces documents, voilà ce qui ravissait les enfants que nous étions plus tard. Il y a eu les registres paroissiaux dans des salles de lecture très diverses pour des recherches généalogiques. Et puis, devenu étudiant, j'ai pu me rendre au département des manuscrits de la BN. Ça, ce sont de grands souvenirs. Et puis, j'ai franchi aussi les portes du fameux CARAN qui, à l'époque, venait juste d'être inauguré. C'est le centre de consultation des archives nationales rue des Francs-Bourgeois. Je me rappelle ma fierté le jour où je suis venu récupérer mon badge du CARAN et que j'ai rempli ma première fiche de demande en deux exemplaires, parce qu'à l'époque tout ça n'était pas encore informatisé. Je me rappelle qu'un des premiers cartons que j'ai demandé en consultation concernait les pourparlers de la paix de Gertruydenberg en 1708. Enfin, c'était un dépôt annexe. Je ne vais pas entrer dans les détails. Alors la boîte arrive, vous savez, dans ces cas-là, avec sa cote. Une petite lumière vous signale qu'elle a été sortie du monde charge. Vous en prenez livraison, vous dénouez nerveusement les attaches rigidifiées par la crasse, vous rabattez le volet. Et là, les vieux papiers apparaissent dans un fumet de poussière d'encre. Alors vous sortez les feuillets abîmés par le temps, vous les ouvrez, vous les découvrez. Et vous découvrez surtout, intact comme écrit hier, les rapports adressés par le diplomate à son ministre. Et parfois en marge, vous avez une apostille du ministre ou de ses services. Beaucoup, beaucoup plus rarement, un petit oui ou un furtif bon de la main du souverain, c'est-à-dire de la main de Louis XIV lui-même. Alors, Si dans un moment comme celui-là, votre cœur ne se serre pas, il vaut mieux que vous renonciez, ça veut dire que vous n'êtes pas fait pour la recherche, et sinon, il va falloir vous habituer à ne pas vous laisser happer par le document, à ne pas vous laisser distraire de votre sillon par toutes les fausses pistes, par tous les prétextes à la rêverie que peut offrir le document d'époque. Apprendre aussi à ne pas vous décourager par les déceptions multiples et forcément répétées qui ne manqueront pas de vous procurer des cotes qui promettaient beaucoup sur le papier et qui, en vérité, ne tiennent pas leurs promesses. Pourtant, quelle émotion, lorsque vous travaillez sur un sujet, à vous, de trouver presque égaré dans un fond de bibliothèque universitaire ou de dépôt des archives départementales de telle ou telle région, des notes qui répondent à une question qu'aucun livre, on dit aucun imprimé dans le jargon, jamais n'avait traité. Quelle joie de tomber sur le croquis ou le plan qui va confirmer inespéré ce que vous aviez cru comprendre d'un lieu aujourd'hui disparu. Plus tard, beaucoup plus tard, et pour tout dire, très récemment, il y a eu les tournages pour la télévision et l'ombre d'un doute au sein même des grands dépôts si spectaculaires des Archives nationales. On a même plusieurs fois ouvert à nos caméras la fameuse armoire de fer. Vous savez, c'est le saint des saints des Archives de France où sont conservés les plus prestigieux documents de notre histoire. Alors vous avez là, sous les yeux, les testaments des rois, le testament de Napoléon à Sainte-Hélène, les constitutions des différentes républiques, la toute dernière lettre de Marie-Antoinette que j'ai eu l'honneur il y a quelques mois de tenir entre mes mains. Ce sont toujours de grands moments. Mais si vous voulez, de même que pour un passionné de pêche, aucune sortie programmée de brochet ne vaut la traque de la petite truite fuyante, de même, aux archives, les petites trouvailles inattendues surpassent très souvent les grands documents célèbres. Je cite souvent à ce micro celui qui reste pour les passeurs d'histoire que nous sommes, le maître incontesté, Gosselin Lenôtre. Vous savez que Lenôtre, il y a un siècle, a fondé ou refondé la petite histoire. Ma complice de l'ombre d'un doute, Clémentine Portier-Kaltenbach, a déniché quelques lignes saisissantes du maître à propos des archives. Et dans un instant, puisqu'elle me fait le plaisir de passer nous dire bonjour, je vais lui laisser le soin de vous les lire elle-même.
L'ère de Leporello sur Europe 1, extrait du Don Giovanni de Mozart, Franck.
Alors je signale à nos auditeurs, Julia, que Clémentine est habillée en noir et comme nous sommes aujourd'hui le 21 janvier, j'ai très envie de lui demander si elle porte le deuil de Louis XVI ou bien celui de Lénine.
Ah, on pourrait dire les deux. En somme, oui, mais j'ai plus particulièrement songé à Louis XVI, naturellement, car c'est un anniversaire, c'est spécifique. Ce sont les 220 ans de l'exécution de Louis XVI.
Alors, très souvent, nous avons des conversations interminables, il faut le dire à nos auditeurs, au téléphone, parce qu'on a quand même des vies un peu occupées l'un et l'autre. Et l'autre jour, je signale à Clémentine que j'allais faire une émission sur les archives. Elle me dit, oh, il faut absolument que je t'envoie un texte extraordinaire de notre saint patron Lenôtre.
Lenôtre que son ami Georges Quint, qui était un des tout premiers conservateurs du musée Carnavalet, appelait l'ange de la documentation, car c'était un boulimique d'archives, Lenôtre.
Oui, et d'ailleurs, dans sa série Vieille maison, vieux papier, il n'a jamais fait que mettre en valeur des fonds d'archives divers, d'ailleurs, essentiellement sur la période révolutionnaire et post-révolutionnaire, mais d'une façon générale, il avait l'art, à partir de documents dont il faut bien dire qu'a priori, ils sont parfois un peu austères, pas très accessibles, il avait l'art de les rendre passionnants, en fait.
Il a passé des heures de sa vie aux archives, à tel point d'ailleurs que ses contemporains racontent qu'il y avait sa place attitrée et lorsqu'il n'était pas là, les gens demandaient à voir la place de Monsieur Lenôtre sans oser s'y asseoir.
Alors, il comparait, nous dites-vous, c'est publié dans ses notes et souvenirs, hein, il comparait les archives à un océan.
Rien ne donne mieux l'impression de l'océan que ces galeries où la France entasse ses papiers. Les cartons s'y succèdent avec la régularité et la monotonie des flots. Sur les parquets brillants, on croirait non pas marcher, mais naviguer, tant la longueur des perspectives, l'amoncellement des liasses et des registres produisent une sensation d'infini. Et si dans l'étrange silence qui règne en ces solitudes, on entend au loin un bruit de pas, si l'on voit poindre la blouse blanche d'un garçon de salle, on est tenté de crier « Une voile !»
Une voile !
Tant on se sent perdu et petit au milieu de ces immensités. L'impression est plus vive encore la première fois qu'on fait une demande de communication. Il semble qu'on vous jette en pleine mer. Vous vous êtes figuré qu'il suffisait de tourner un robinet et c'est une gigantesque écluse qui s'est ouverte. Les documents arrivent à flot. Vous perdez pied, vous êtes submergé, roulé, noyé. Il y a là une heure de désespoir atroce. Mais il se trouve toujours quelque archiviste compatissant pour vous tendre la perche et vous déposer sur le bord avec un paternel « N'y revenez plus ».
N'y revenez plus. Il faut dire que, évidemment, à l'époque, le personnel était beaucoup, beaucoup moins attentif qu'il n'a pu le devenir.
Non seulement cela, mais alors, selon le nôtre, il semblerait qu'à l'époque où lui-même s'est mis à fréquenter les archives de l'hôtel de Soubise, parce qu'il avait été refoulé de la Bibliothèque nationale, n'étant pas chartiste, n'étant pas étudiant, eh bien, il raconte qu'il y avait juste une toute petite pièce au rez-de-chaussée des archives où étaient confinés les rares curieux qui s'y aventuraient.
Alors, le nôtre poursuit, il dit, si l'on s'en tête néanmoins, et si l'on ne se laisse pas rebuter par ce premier déluge, par ce premier raz-de-marée.
Si l'on s'entête et qu'on montre quelques velléités d'un nouveau plongeon, chacun s'empresse à vous guider, à vous souvenir, à vous soutenir, à vous encourager. Et ma foi, au bout de quelques temps, on finit par acquérir l'illusion seulement, qu'on flotte tant bien que mal à la surface de ce perfide océan.
Ce perfide océan dont il ne pouvait néanmoins plus se passer. Alors, il faut imaginer, évidemment, pendant très longtemps, hein, dans la salle Soubise où avaient lieu les consultations, il faut imaginer des gens qui étaient des habitués. Le public des archives, on va y venir dans un instant, s'est beaucoup étoffé depuis quelques décennies, mais au tournant du XXe siècle, ça n'était pas le cas. En 1951, Régine Pernoud, qui elle-même, du reste, était archiviste et qui sera, vous savez, notre grand auteur sur le bas Moyen-Âge et notamment la spécialiste de Jeanne d'Arc. J'ai dit parfois un peu de mal de Régine Pernoud à propos de Jeanne d'Arc, donc je m'en excuse et là, en l'occurrence, je vais lui rendre hommage. Elle décrit ce qu'était cette salle et les gens qu'on y trouvait. On y verrait, dit-elle, bien entendu, le vieux chercheur à barbe vénérable, l'érudit chenu qui déchiffre les diplômes mérovingiens comme nous lisons notre journal, et avec autant d'intérêt d'ailleurs, mais aussi des groupes d'étudiants en mal de thèse, de graves agents de l'administration venus consulter des dossiers anciens, des classes entières de potaches, d'enfants des écoles, voire des centres d'apprentissage qui viennent au musée apprendre leur histoire directement sur le document. Oui, parce qu'il y a, depuis le Second Empire, un musée qui présente, enfin, on va en parler tout à l'heure, un certain nombre des très grands documents de l'histoire de France, ce qui est, nous dit Régine Pernoud, une manière d'apprendre autrement intéressante que d'étudier des résumés. On y voit même des artistes qui, eux, se dirigent de préférence vers l'atelier de moulage des sceaux, 100 000 moulages datant de toutes les époques et de toutes les régions, un véritable répertoire de cet art exquis et qui tient de la sculpture autant que de la gravure. Un art exquis qu'il faut une certaine sensibilité et pas mal d'érudition pour savoir apprécier à sa juste valeur. Il est facile, disait Régine Pernoud, de comprendre ce que sont les archives. Tout le monde possède chez soi un secrétaire ou un classeur, voire un simple tiroir dans lequel sont rangés les papiers indispensables, livrets de famille, pièces militaires, diplômes et attestations divers, actes d'achat et de vente de propriété, quittances de loyer, factures, sans oublier les lettres auxquelles on tient, ou même, pour peu qu'on ait l'âme romantique, les fleurs séchées. Eh bien, disait Régine Pernoud, transposez tout cela de l'individu à l'État. Et vous aurez défini ce que sont nos archives nationales. Un gigantesque meuble de famille où viennent s'entasser méthodiquement triées et classées les pièces qui intéressent toute la nation, administration intérieure, traités de paix ou de commerce, finances, justice, éducation des enfants, construction et réparation des bâtiments publics, etc., etc.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et nous plongeons au cœur des archives aujourd'hui sur Europe 1, toujours en compagnie de Clémentine Portier-Kaltenbach. Je le rappelle, elle est votre complice en télévision dans l'émission L'ombre d'un doute sur France 3. Franck également
en
avec
partenariat
nous.
Avec les archives nationales d'ailleurs.
Exactement.
Et Europe 1.
Et Europe 1. Et Agnès Magnin est avec nous. Elle est conservatrice en chef du patrimoine, directrice des archives nationales.
Et oui, c'est la patronne. Bonjour Agnès Magnin. Merci de nous avoir rejoint pour, à l'occasion de ce déménagement de tout le fonds contemporain des archives nationales, donc à Pierrefitte. Alors, il est parfois difficile de se repérer dans ces immenses fonds d'archives, mais pour tout vous dire, j'ai un peu de mal à me repérer dans le courrier de nos auditeurs, là, aujourd'hui.
Très nombreux,
oui,
ça
oui,
fait
c'est
plaisir.
Formidable. Les gens réagissent beaucoup. Mais je suis ravi. Donc, continuez à nous poser vos questions, à nous donner vos témoignages et vos avis. Et puis, j'essaierai de faire une sorte de synthèse vers la fin de l'émission. Alors, Agnès Magnin, évidemment, il y a longtemps. D'abord, il faut peut-être raconter en deux mots comment s'est faite progressivement l'extension des archives à partir du palais Soubise que Napoléon Ier a mis à la disposition des archives en 1808, en vérité.
Tout à fait. 1808, les archives nationales s'installent au palais Soubise, donc au cœur du Marais, et puis s'agrandissent. On démolit un petit hôtel à côté de l'hôtel de Soubise. On construit des dépôts sous Louis-Philippe, sous Napoléon III. Dans le premier quart du XXe siècle, on annexe même l'hôtel de Rouen où se trouvait encore l'imprimerie nationale. On l'annexe et donc...
On s'agrandit.
Voilà, on occupe presque tout le pâté de maison.
Oui, c'est tout un grand... j'allais dire tout un quartier, peut-être pas, mais tout le pâté de maison, là, on est en plein Marais, hein, autour de cet hôtel de Soubise, avec les galeries construites par Louis-Philippe et les fameux grands dépôts construits sous Napoléon III,
absolument,
qui était un peu le royaume du comte de Laborde, qui était non seulement un ami proche et un chasseur proche de Napoléon III, mais aussi le premier patron des archives impériales, en
absolument
fait.
Hein. Mais malgré cet accroissement de l'implantation sur le site de Paris, eh bien, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a saturation des dépôts parisiens. On recherche assez rapidement de nouveaux espaces de stockage et on en trouve dans la forêt de Fontainebleau, dans l'ancien siège de l'OTAN, où les archives nationales s'installent aussi en 1969.
Ce qui veut dire que lorsqu'on consulte des choses concernant l'histoire très contemporaine, ce qui, moi, n'a jamais été mon cas, pour tout vous dire, mais on va travailler à Fontainebleau ou les...
C'est ça, jusqu'à oui, aujourd'hui. Quand vous consultez des archives de la Ve République, donc postérieure à 1958, vous allez à Fontainebleau.
Alors, tout ça est en train de changer, puisque depuis le mois de mai dernier, on voit, et nous sommes bien placés avec Clémentine pour le savoir, puisque au cours des tournages de L'Ombre d'un doute, nous avons eu l'occasion d'assister à une partie de ce déménagement, on voit des camions faire la navette entre le cœur de Paris, entre ce 4e arrondissement, et puis là-haut, vous êtes parti à Pierrefitte dans un nouveau bâtiment, assez extraordinaire d'ailleurs.
Dans les années 90, effectivement, à nouveau saturation, cette fois-ci de Paris et de Fontainebleau.
Quand vous dites saturation, on a combien de rayonnage maintenant aux archives nationales ?
On en avait 300 kilomètres. Et aujourd'hui, on en a 600.
Oh là là,
avec l'ouverture du site.
C'est-à-dire que si on met côte à côte, quand je dis côte à côte, si on range comme sur des rayons, hein, bien sûr pas bout à bout, les boîtes d'archives, les cartons, et qu'on les met tous les uns après les autres, on peut aller à peu près de Paris à Bordeaux. Quoi. En fait, c'est assez spectaculaire. Hein,
c'est ça. Alors, je suis pas sûre qu'on aurait envie de mettre les archives dehors pour marcher dessus, aller jusqu'à Bordeaux, mais c'est effectivement un nombre considérable de boîtes d'archives qui sont conservées aux Archives nationales. Et donc saturation de Fontainebleau dans les années 90. On met du temps à se décider, mais finalement, Lionel Jospin comme Premier ministre, puis Jacques Chirac comme Président de la République, actent de la nécessité de la construction d'un troisième site pour les Archives nationales. Et en 2004, c'est le choix du site de Pierrefitte qui se fait. Concours international d'architecture.
Pierrefitte, on est dans le nord de Paris, hein, tout près de la fac de Saint-Denis, en fait.
Voilà, donc une des les préconisations des archivistes était d'être à proximité d'un métro. Nous sommes à la sortie du terminus de la ligne 13, à proximité de centres de recherche, nous sommes en face de Paris 8, bientôt à deux encablures du futur site campus Condorcet. Et il fallait bien sûr un foncier libre, et c'est ce qu'il y avait dans cette zone de Pierrefitte dite des Tartres.
Alors, puisque vous avez prononcé le mot de Condorcet, ça me sert de... c'est très pratique. Imaginons un étudiant qui travaillerait sur Condorcet, justement. La partie antérieure à 1789 va l'amener au 40, toujours dans le cœur de Paris, et la partie postérieure va l'emmener là FAO à Pierrefitte, en fait.
Absolument.
C'est ça, voilà. Donc, il aura deux sites de recherche à partir de ce moment-là.
Absolument. Alors, c'est un peu compliqué pour les lecteurs, peut-être. On s'aperçoit quand même que c'est assez rare, finalement, que la coupure de la Révolution française...
C'est une vraie césure.
Voilà, est aussi une coupure, en général, dans les recherches. Mais effectivement, il faudra, y compris pour ceux qui travaillent sur le 19e siècle, aller à Pierrefitte, mais aussi, s'ils consultent les archives des notaires, retourner à Paris.
Alors, ce déménagement, pour vous, apporte des avantages en termes pratiques, en quelque sorte? Vous allez travailler plus confortablement que dans les anciens dépôts?
Alors, il y a une difficulté quand même, c'est d'être sur trois sites, puisque
maintenant
les trois sites, donc nécessairement des déplacements, et puis le désir de rester quand même unis dans cette institution que sont les Archives nationales. D'un autre côté, effectivement, à Pierrefitte, où nous accueillons le grand public pendant les 15 jours qui viennent, y compris les week-ends où nous organisons aussi expositions, animations et visites du site, nous sommes très bien installés. Les conditions de travail, de manutention, de transport des documents sont tout à fait idoines.
Il n'y aura pas, en revanche, le plaisir d'être sur un site historique, hein, dans ces anciens. Alors, cela dit, le Caran lui-même est ultra contemporain, mais on est au cœur d'un quartier très ancien, très historique, juste à côté de ce palais Soubise et de ses grands dépôts. Mais bon,
c'est pas le même charme, c'est pas le même quartier, mais on désespère pas avec les collectivités, avec l'Université de Paris 8, de mettre un petit peu d'animation au métro Saint-Denis Université.
Alors tout à l'heure, à la fin de l'émission, et je le signale pour tous ceux qui veulent évidemment aller vous rendre visite, ils peuvent déjà s'armer de papier et de stylo, puisqu'on donnera des éléments sur tout ce qui va se passer à l'occasion de cette inauguration, des visites, des portes ouvertes, expositions, concerts, spectacles, projections, tout ça vers la fin de l'émission. Je parlais tout à l'heure de mes premiers émois au Caran. À l'époque, votre illustre devancier, chère madame, était Jean Favier, et j'ai trouvé dans un vieux numéro d'Historia un texte de Jean Favier consacré justement au contenu même des collections des Archives nationales. Nous y venons dans le cadre du récit dans un instant.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Avec un récit de Franck aujourd'hui sur Europe 1 qui nous révèle ce qui se cache au cœur des Archives nationales.
Et d'ailleurs, soyons honnêtes et rendons à César, ce n'est pas un récit de Franck, pour une fois, c'est un récit de Jean Favier que nous saluons très chaleureusement et qui est venu si souvent à ce micro nous raconter le Moyen-Âge. Le premier trésor que conservent les Archives nationales tout au long de rayonnage qui, mis bout à bout, irait sans peine. Alors à l'époque, il disait de Paris à Poitiers, nous avons vu que maintenant il faut aller jusqu'à Bordeaux. Ce sont évidemment les grands fonds en lesquels se reflète l'ancienne France, écrivait Jean Favier. On est donc au début des années 1980. Il y a là tout d'abord ces archives centrales de la monarchie, archives de la chancellerie, du conseil royal, du parlement, 26 000 cartons et registres, et de la chambre des comptes qui forment autour des procès-verbaux des assemblées révolutionnaires le noyau des archives nationales. Le cœur, nous dit-il, c'est le trésor des chartes, autrement dit, les registres en lesquels s'inscrivent les actes expédiés depuis le XIIIe siècle par la chancellerie royale, ainsi que, scellés ou non, les actes originaux conservés par le roi parce qu'ils étaient ses titres. Le plus ancien et le plus émouvant de ces documents, c'est peut-être le cartulaire de Philippe Auguste. À la bataille de Frédéval en 1194, Philippe Auguste avait perdu ses archives, du moins le dit-on. En tout cas, le roi s'avisa qu'on ne pouvait mettre en péril l'administration du royaume en promenant d'un champ de bataille à l'autre, ce qui constituait déjà la mémoire du gouvernement. Alors, que va faire Philippe Auguste? Eh bien, rentrer à Paris. Il décide que ses archives ne quitteront désormais plus ce qui, à l'époque, peut être considéré comme le coffre-fort de la monarchie, cette énorme tour, ce qu'on appelle d'ailleurs dans le jargon de l'administration médiévale, la grosse tour du Louvre. Et pour commencer les nouvelles archives, écrit Jean Favier, il fit compiler un cartulaire dans lequel on consigna pendant qu'il était temps ce que la mémoire des hommes pouvait reconstituer des titres malencontreusement perdus. Ben oui, puisqu'ils avaient, dit-on, subi mauvaise fortune au cours de cette bataille. Ce petit volume est la tête de file d'une longue série de registres où les actes politiques et les correspondances administratives alternent avec les actes de don, les rémissions de peine, les anoblissements parfois, du 13e au 16e, quelques siècles. Quelques 250 registres dont les reliures modernes n'ont d'autre ambition que de protéger le précieux contenu. Bien différents, nous dit-il, sont les documents scellés, conservés en des carton dont les plus anciens continuent de porter le nom de layette, qui leur vient des caissettes de bois qu'on utilisait avant d'utiliser justement ces fameux cartons qui présentent un certain nombre de grandes qualités pour la conservation et pour la protection des documents. Attardons-nous un instant sur ces sceaux qu'un atelier spécialisé ne cesse de restaurer, d'inventorier, de mouler, quelques centaines de milliers de moulages qui dispensent bien souvent de recourir aux trop fragiles originaux. Alors on voit effectivement, lorsqu'on parcourt tous ces documents, on voit passer tous les grands noms de l'histoire de France. Aux archives royales, écrit Jean Favier, la Révolution joint les grands fonds d'archives qui viennent d'être confisqués. Ce sont ceux des grandes institutions ecclésiastiques, l'évêché, qui deviendra archevêché en 1622 de Paris, les monastères, les prieurés, les paroisses, les collèges. Ce sont aussi ceux des princes, princes d'Artois, Bouillon, Conti, Orléans, Provence. Et puis, il y a ces très grands chartriers que leurs propriétaires actuels auraient pu conserver chez eux et qui sont par contrat mis en dépôt aux archives nationales pour la commodité des chercheurs. Alors, il y a un aspect qu'on oublie parfois. On aurait tort, nous dit Jean Favier, d'imaginer tout ça composé de parchemins solennels auxquels pendraient de grands sceaux de cire rouge, verte ou brune. Les archives de l'Ancien Régime, ce sont surtout d'innombrables registres de délibérations, des tonnes et des tonnes de correspondances, de comptes, de brouillons, du papier notarié et du papier timbré. Et puis il faudrait évoquer toutes sortes d'autres grimoires et puis les dessins, etc., etc. Voyons ce qu'il en est aussi des archives contemporaines. Ces archives contemporaines, ce sont avant tout les volumineux versements des archives de centaines d'administrations centrales de la France, administrations dont les ministères sont le regroupement souvent temporaire. Telle direction, comme celle des routes, a fait partie depuis la libération de 15 ministères différemment constitués. Et évidemment, il appartient aux archivistes des différentes générations d'assurer le regroupement idéal, grâce à quoi l'historien va pouvoir s'y retrouver. Sinon, s'il fallait aller chercher dans des fonds totalement différents, ce qui peut arriver parfois, ce serait évidemment beaucoup plus difficile. Ce sont là les archives publiques, nous dit Jean Favier, mais il y a aussi, ne l'oublions pas, toutes les archives privées, à côté des chartriers, des archives des maréchaux, que de fonds essentiels pour la connaissance de la vie politique contemporaine. Ainsi, les archives du général de Gaulle, ou celles de René Cassin, qui à l'époque, on est donc encore une fois au tournant des années 80, venaient d'entrer aux archives nationales, et sont le reflet de l'histoire du monde pendant trois quarts de siècle, Société des Nations, France Libre, Conseil d'État, etc., etc. Alors évidemment, toutes ces archives sont en grande partie des archives papier, mais on ne s'en tient pas au papier, aux archives nationales. Évidemment, d'un grand nombre d'autres supports, l'image photographique, la photocopie, évidemment des microfilms, alors là il y en a eu des quantités, et puis toutes sortes d'autres supports, et puis maintenant, bien entendu, pour une toute petite mais importante partie des collections, évidemment, un support numérique. On aurait tort, évidemment, de vouloir résumer les archives à de grands registres et de grands chartriers. Il y a dans cette caverne d'Ali Baba, il y a toutes sortes de documents jusqu'au plus inattendu. Et pour avoir moi-même, n'est-ce pas, très modestement, mais c'est un titre de fierté, co-dirigé l'enquête nationale d'archives orales pour les archives nationales en 1993, je sais à quel point ces archives sonores sont également très importantes.
Le récit de Pimène sur Europe, un extrait de Boris Godounov, Franck.
Alors, qui est l'habitué des salles de consultation, demande Jean Favier. C'est bien sûr l'érudit penché sur son cartulaire ou sur ses livres de comptes. Du 18e à nos jours, il n'a jamais cessé de fréquenter avec passion les dépôts d'archives. Mais il s'est découvert en même temps que s'élargissait le champ d'action de la recherche historique de nouvelles ambitions et de nouvelles exigences. Il fait maintenant dans le quantitatif, dans le sériel. Faut pas oublier que l'article, encore une fois, était à une époque où l'histoire sérielle avait le vent en poupe. Ça a un peu changé maintenant. Il ouvre des centaines de liasses pour noter dans chacune un seul chiffre, grâce à quoi il construira sa fameuse courbe. Il a cessé de mépriser le document obscur. 1000 documents obscurs font une histoire au moins autant qu'un document fameux. L'histoire de la mort et de la vie, celle de la faim et de la soif, celle de l'enfance et de la vieillesse ne se font pas avec des traités ou des lettres de Napoléon, mais avec les carnets d'une blanchisseuse, avec les archives d'une école maternelle, avec les dossiers financiers d'une caisse de sécurité sociale. Chercher dans les archives, écrivait Jean Favier, cela suppose surtout beaucoup de bonne volonté, la volonté d'y consacrer son temps sans savoir ce que l'on trouvera. Ah ça, je crois qu'on peut dire que c'est la première de toutes les règles du chercheur en archives. Il n'est pas de pire méthode que celle qui consiste à vouloir à tout prix découvrir le document dont on pense qu'il existe, même si quelques traditions familiales ou autres en donnent plus ou moins l'assurance, mais à chercher ce que les archives peuvent renfermer. À feuilleter pendant des heures les inventaires élaborés par des générations d'archivistes, à dépouiller pendant des jours liasses et registres. Il n'est pas d'historien, professionnel ou amateur, chercheur ou simple curieux, qui n'ait éprouvé de grande joie dans sa découverte du passé.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Et nous sommes toujours sur Europe 1, en compagnie de la journaliste Clémentine Portier-Kaltenbach, également avec nous Agnès Magnin, qui est directrice des Archives Nationales, et Bruno Galland nous a rejoint. Il est directeur des publics des Archives Nationales.
Bonjour Bruno Galland.
Bonjour.
Les téléspectateurs de France 3 vous connaissent, car vous présentez souvent, dans l'ombre d'un doute, un certain nombre de grands documents. Alors, vous vous occupez des publics, justement. Est-ce que le public que décrivait le nôtre, le public que décrivait Madame Pernoud, le public que décrivait Favier il y a un instant, a changé? Est-ce que c'est toujours le même aujourd'hui?
On retrouve toujours le même public. Il y a effectivement des chercheurs professionnels, des érudits, beaucoup d'étudiants aussi, qui viennent travailler sur les documents d'archives. Et puis, il y a également des personnes qui viennent aux archives qui ne sont pas des chercheurs professionnels, qui ne font pas ça dans la perspective d'un travail d'histoire un peu scientifique, mais qui ont une recherche personnelle d'ordre généalogique ou de manière un petit peu plus compliquée pour se situer. Par exemple, ce matin, nous avons ouvert le site de Pierrefitte. Notre premier lecteur était venu consulter un dossier de naturalisation qui intéressait l'histoire de sa famille.
Ah, ça c'est formidable. Et vous avez eu déjà des lecteurs depuis ce matin alors ?
Nous avons eu 10 lecteurs quand j'ai quitté tout à l'heure les Archives Nationales, donc je pense que nous en avons d'autres.
J'espère que vous leur avez remis un diplôme pour ce sont les premiers lecteurs du nouveau site de Pierrefitte. Vous imaginez néanmoins que lorsqu'on voit le sceau des Archives Nationales, ce soit un peu impressionnant pour le commun des mortels. C'est-à-dire quand on n'est pas historien professionnel, lorsqu'on n'est pas accrédité habituellement, etc., on se dit « Oh, ça n'est pas pour moi ». Or, n'oublions pas que tout citoyen a droit de consulter les archives. Bruno Galland.
Tout à fait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons tenu, avec Agnès Magnin, à mettre dans le hall d'entrée du bâtiment de Pierrefitte, pour ces 15 jours exceptionnels dont elle parlait, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont la minute originale est conservée dans les documents des Archives nationales. L'accès aux archives, c'est un droit pour tout citoyen. Et notre mission, c'est d'aider chacun à comprendre comment c'est organisé et comment on peut retrouver quelque chose qui intéresse.
Et généralement, quand on cherche, on trouve, si je puis dire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que grâce aux inventaires qui se sont succédés au fil des générations, vous êtes capable de nous trouver à peu près n'importe quoi en un temps record, il faut bien le dire. Moi, je le sais parce que dans le cadre de l'émission, justement, je reconnais que parfois nous sommes allés un peu loin. Et comme nous travaillons avec des journalistes qui ne sont pas forcément des professionnels de l'histoire, ils vous ont parfois fait des demandes un peu surréalistes. Mais quasiment toujours, vous avez répondu, vous nous avez sorti les documents. C'est assez extraordinaire, cette capacité à aller chercher la bonne pièce.
Je ne sais pas si on trouve toujours, mais en tout cas, la manière dont sont organisées les archives, en fonction des administrations, des personnes et des familles qui les ont produites, permet d'avoir une recherche relativement rationnelle. Nous savons assez souvent le type de document qu'on peut trouver, et aussi celui qui n'a probablement jamais existé ou qu'on ne trouvera pas. C'est une des difficultés que nous avons quand nous présentons les archives aux lecteurs, c'est de leur dire ça n'a pas pu exister.
Alors nous allons venir tout à l'heure évidemment au contenu des archives. On verra s'il y a des documents plus anciens que le règne de Philippe Auguste finalement, puisqu'on disait qu'une partie des archives avait disparu, une grande partie avait disparu à ce moment-là. Nous verrons quel type de documents vous avez aussi, quels sont les supports, etc. Avant ça, j'aimerais que vous nous disiez ce que sont aujourd'hui les mesures de protection spécifiques. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que dès le début du 19e siècle, on a des moyens de conserver remarquablement le papier. Sauf que maintenant, le papier est loin d'être le seul des supports. Agnès Magnin, peut-être, sur le sujet ?
Alors, il y a des mesures de protection qui, comme vous le dites, sont utilisées pour le papier depuis des décennies. Donc, c'est les fameux cartons neutres, notamment de la famille Cochard. Et puis, il y a des mesures de protection plus de sécurité des bâtiments. Donc, nous avons à Pierrefitte un détachement de la brigade des sapeurs-pompiers qui sont là jour et nuit, 7 jours sur 7. Mais comme...
faut dire qu'il y a des capteurs et que si quoi que ce soit, si on perçoit, alors à Pierrefitte n'en parlons pas, ça doit être ultra moderne.
Voilà.
Mais même à Soubise, hein, dès qu'il risque de se passer quelque chose, quand il y a un peu de fumée, ça sonne tout de suite. Et ça sonne de façon stridente. J'ai vu un essai, moi un jour, ça fait peur.
Voilà, il y a des détecteurs effectivement dans un certain nombre d'espaces de Soubise. Et il y a aussi des anciens sapeurs-pompiers qui sont là aussi jour et nuit, 7 jours sur 7. Donc c'est vrai que nous avons, nous, la responsabilité de ces archives de caractère national. Et donc les mesures de sécurité et de sûreté sont essentielles. C'est vrai aussi que les supports changeants, c'est-à-dire passant du papier à, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'électronique, le numérique, les conditions de conservation doivent évoluer. Donc nous adaptons les magasins, température, hygrométrie, aération, nous les adaptons au type de supports qui sont conservés. C'est vrai dans tous les services d'archives publiques.
Alors, évidemment, avec le temps, les supports ont l'air de devenir, c'est peut-être, moi, c'est mon petit côté réac, hein, mais j'ai toujours l'impression que c'est de moins en moins sûr, le support de l'archive. On a eu cette catastrophe dans les années 50 et 60, qui était le papier pelure, avec qui était en fait une sorte de, ce qu'on mettait derrière les lettres, hein, pour avoir une copie des lettres qui étaient envoyées. Et alors, généralement, évidemment, dans les dossiers, vous n'avez plus les lettres. Et pour cause, elles ont été envoyées, vous avez les pelures. Et ça, c'est très, très fin. Et puis, petit à petit, on s'est mis à avoir des choses de plus en plus fragiles. Alors maintenant, étant donné qu'on n'écrit presque plus, qu'on s'envoie des mails et des SMS, ça va devenir très difficile de conserver des écrits, Bruno Galland.
Alors, vous avez tout à fait raison. Les supports contemporains sont beaucoup plus fragiles que les supports anciens. C'est la raison pour laquelle on avait vraiment besoin d'un centre moderne, comme celui de Pierrefitte, pour précisément les documents postérieurs à la Révolution française. Parchemin, papier chiffon, il faut évidemment prendre des précautions, mais on arrive à maîtriser assez bien leur évolution dans le temps. C'est beaucoup plus compliqué pour les papiers de mauvaise qualité de la période contemporaine, et c'est aussi l'enjeu que posent les archives électroniques.
Alors, il y a quand même, puisqu'on parle d'archives électroniques, une grande question qui se pose. Quand est-ce qu'on pourra consulter tous les documents, enfin tous, tous les documents utiles des archives nationales tranquillement sur son écran d'ordinateur à la maison?
Alors, on va déjà faire une première étape très intéressante, c'est qu'au début de l'été, vous allez pouvoir consulter presque tous les catalogues et inventaires des archives nationales.
Donc, préparer
sur
la recherche.
Notre site internet. Préparer la recherche. Et ça, c'est notre premier objectif, permettre à nos chercheurs de savoir ce que nous avons et de venir vraiment pour consulter les documents originaux. C'est un énorme chantier qui a pris des années. Ensuite, il faut quand même se garder le plaisir de consulter des documents originaux sur sa table de travail.
Ah oui, je me rappellerai toujours sur un sujet d'étude très précis, peu importe, lorsque j'ai appris que le fonds que je venais consulter tout content, alors c'était pas chez vous, ça c'était au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale, mais lorsque j'ai appris que le fonds en question était entièrement microfilmé et que j'allais m'installer simplement devant un écran et tourner une manette au lieu d'avoir les papiers dans les mains, j'en aurais pleuré tellement j'étais déçu. Je comprends que pour des raisons de conservation ça puisse être utile, mais évidemment pour un chercheur c'est toujours très frustrant. Vos messages continuent d'affluer, donc nous allons en parler dans un instant. Et puis avec Clémentine, nous allons revenir justement sur cette émotion spécifique qui est celle de la découverte.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Dis-moi ce qu'ils sont devenus, ces visages à nu sur ces photos anciennes. Grand-mère, ces visages fanés comme des fleurs séchées dans une porcelaine. Ces gens qui ont l'air si vivants, qui ont l'air si mouvants, que tu penses souvent voir le temps qui s'arrête. Ces gens sur un morceau de temps comme un tapis volant sur la mort qui nous guette.
Ces gens sur un morceau de temps, nous chante Francis Lalanne dans sa chanson Sépia. Vous faites le tri, Franck, parmi tous les messages qui nous arrivent. Hein.
Alors, je pourrais pas tous les citer, mais quelques-uns. Isabelle nous dit merci de cette émission de faire partager aux non-chercheurs ce goût de l'archive, comme le dit Arlette Farge, que nous saluons aussi. Le bonheur d'ouvrir ces cartons, même si parfois on ne trouve pas ce que l'on cherche. Saluons, précise Isabelle, la disponibilité des archivistes du Caran, mais aussi, et c'est vrai que c'est important, la solidarité qui s'établit entre les chercheurs eux-mêmes. Ça, c'est un des grands secrets et un des grands plaisirs de la recherche. Plaisir qui est parfois mêlé, enfin, ça, c'est très compliqué. Une autre Isabelle nous dit « On voudrait y être, quelle merveille !» Moi aussi, j'ai ressenti cette émotion à consulter les vieux registres de papier et écrits à l'encre lors de mes recherches généalogiques, nous dit Claire. Et c'est vrai que l'explosion des recherches généalogiques depuis une trentaine d'années en France a donné à une grande partie de public qui n'était pas au départ des chercheurs le goût et l'habitude des fonds d'archives. Ce sont souvent des archives départementales, évidemment. J'ai eu également une révélation pour les archives à l'âge de 9-10 ans, nous dit Patricia, quand j'ai retrouvé chez mes grands-parents dans des communs des factures du 19e siècle recouvertes de terre sous les cajots de pommes. Je les ai ramenées chez ma grand-mère, je les ai nettoyées sous l'œil surpris de ma famille et 35 ans plus tard, je les ai toujours. D'ailleurs, précise Patricia, je suis devenue archiviste. Imaginez, dit Léon, mon émotion le jour où j'ai identifié dans ma bibliothèque une dédicace indiquant que l'ouvrage avait, l'ouvrage qu'il avait, c'était une édition des Nuits de Jung, avait été dans les mains de Camille Desmoulins et que c'est le dernier livre qu'il avait lu avant son exécution. En effet, ça donne des frissons. Marie-Françoise nous dit, alors ça c'est une question pour vous Agnès Mayen. Vous parlez des fonds modernes, anciens, contemporains. Est-ce que vous pourriez nous situer ça dans le temps? Alors c'est pas très compliqué, hein, il y a des dates très précises pour définir ces différentes appellations.
Voilà, tout ce qui est d'Ancien Régime, ce qui est Ancien Régime, c'est avant 1789. Ce qui est moderne, ça va être le 19e siècle. Mais en histoire moderne, parfois, on parle du 16e et 17e
oui,
siècle.
Oui, voilà,
donc
à partir de 1453, oui.
Et tout ce qui est contemporain, c'est après 1914.
Alors, tout ce qui est ancien, c'était avant 475 après Jésus-Christ. Mais évidemment, ça concerne assez peu les archives nationales, il faut bien le dire. Oui. Anne-Sophie nous dit, le dossier de mon arrière-grand-père ne semble pas pouvoir être ouvert avant 150 ans. Qu'est-ce que cela veut dire, Bruno Galland?
Alors, il y a effectivement, lorsque des documents intéressent la vie privée des personnes, en particulier, des délais de communication qui sont fixés par la loi, par le Code du patrimoine, parce qu'on a évidemment toujours envie d'en savoir plus, mais il faut également penser à protéger la vie privée de personnes qui sont encore vivantes ou de certains de leurs ayants droit. Il peut y avoir dans des dossiers des informations d'ordre personnel ou médical dont on n'a pas forcément envie qu'elles sortent tout de suite. Ça fait partie de la difficulté de notre métier, concilier l'ouverture des archives, à laquelle nous sommes très attachés, et néanmoins une nécessaire discrétion.
Vous avez quatre missions, hein. Collecter, évidemment, conserver, inventorier pour rendre facile et ensuite diffuser, permettre la consultation. Tous ces messages, Clémentine, nous qui sommes au contact si souvent d'amoureux et de passionnés d'histoire, tous ces messages nous montrent à quel point le document, la véritable source reste finalement la source d'émotion principale de notre métier.
Je pense qu'effectivement, alors là, en la matière, il n'y a probablement pas de demi-mesure, c'est-à-dire où on est capable de faire ce voyage du document, de la lettre jusqu'à la personne qui l'a écrite, de l'objet jusqu'à la personne à laquelle il a appartenu et même de la relique jusqu'à la personne qu'elle a charpentée ou pas du tout. Mais si c'est le cas, eh bien oui, on arrive à se projeter. Moi, je me souviens, une des grandes émotions en la matière, c'était d'avoir vu le registre d'écrou de Ravaillac, qui se trouve au musée de la police rue des Carmes, dans le 5e arrondissement, et de se projeter au moment où Ravaillac est présenté devant le greffier.
Il est là devant, et le greffier.
Et, oui. Voilà, et on est là, c'est ce moment d'histoire, de la même manière, aux archives.
C'est un peu la vibration de l'instant qui transparaît sur le papier.
On a eu le privilège, souvenez-vous, Franck, d'avoir ce document, un registre du Parlement de Paris dans lequel le greffier était occupé à sa besogne quotidienne écrit dans la marge, on apprend qu'il y a deux jours une pucelle a libéré
Orléans.
Il la dessine et c'est le seul dessin contemporain qu'on ait de Jeanne d'Arc. Ça fait partie des merveilles qui sont exposées aux archives et pour lesquelles il faut impérativement s'y rendre. C'est une émotion extraordinaire.
Alors, on parlait de Le Nôtre tout à l'heure. Vous nous avez lu un magnifique texte sur les archives comparé à l'océan. Il faut savoir que nous faisons partie, vous comme moi, de toute une équipe, alors on est nombreux, hein, à avoir sélectionné un peu partout des textes de Le Nôtre qui seront bientôt publiés. Il faut le dire, c'est l'occasion ou jamais.
Oui, avec joie, bien sûr. C'est une œuvre pieuse en hommage à ce maître que nous aimons tous. J'ai Le Nôtre, Gosselin Le Nôtre, qui était donc ce grand boulimique passionné d'archives, où il a passé des heures, de longues heures de sa vie pour notre plus grand plaisir. Et alors nous sommes quelques-uns, nous sommes certainement d'ailleurs nombreux ici à voir avoir lu le nôtre étant plus jeune. Il est mort dans les années 30, en 1935. Il était un auteur prolifique. Il a écrit plus d'une centaine de livres, Vieille maison, Vieux papier. C'est un auteur de la contre-révolution qui s'est passionné pour la chouannerie, passionné pour la typologie des événements historiques. Il rentre partout, il visite. Et donc, nous allons lui dédier ce livre. Ce sera
grand
un choix
soi,
de texte. Voilà, vraiment. Oui.
Alors, ce sera pour, je ne sais pas quand, ça sort quand,
printemps.
Au printemps. Bon, voilà, très bien. Un mot seulement, j'aurais voulu en dire davantage, Bruno Galland, sur le plus ancien des documents qui sont détenus aux archives nationales.
C'est un acte d'un roi mérovingien, Clotaire II, en faveur de l'abbaye de Saint-Denis. L'abbaye de Saint-Denis conservait très bien ses archives. C'est un document de 625. Et c'est un peu un retour aux sources, finalement, que nous nous installions à Pierrefitte, puisque nos plus anciens documents concernent Saint-Denis.
Ça, c'est assez extraordinaire. Saint-Denis, finalement, peut-être l'ombilique de la vieille monarchie française. Alors, justement, Agnès Magnin, qu'est-ce que vous nous préparez à l'occasion de l'inauguration de ce nouveau site de Pierrefitte? C'est Journée Portes Ouvertes chez vous.
C'est ça, c'est 15 jours de Journée Portes Ouvertes, avec des visites tous les jours. Départ toutes les 2 heures du lundi au vendredi, toutes les demi-heures le samedi et le dimanche. Donc il y a 2 week-ends ouverts. La salle de lecture, bien sûr, est ouverte. Des projections d'archives et sur les archives dans notre auditorium qui est magnifique. Et enfin, des animations le week-end. On a Banlieue Bleue, la Compagnie Lambert du Centre National de la Danse. On a Ami Karim, Slammer. On a la compagnie Fratellini, donc du cirque, l'Académie Fratellini.
J'imagine que ça n'a pas dû faciliter l'ouverture. C'est-à-dire qu'en plus du déménagement, de l'installation, de l'organisation des personnels, etc., il a fallu gérer les festivités, si je puis dire.
Absolument. On a aussi, Zaya Ziwani, donc du Conservatoire de Stein. C'est surtout la volonté de dire ce site est ouvert, ce site vous appartient, les archives nationales sont à vous, sont pour vous. Et notamment dans ce territoire de la Seine-Saint-Denis, nous avons beaucoup... d'ambition de travailler avec le territoire.
C'est vrai que quelque part on ne le sait pas assez. Je disais tout à l'heure que tout citoyen pouvait consulter les archives, alors sous certaines conditions bien entendu, dans la mesure où les documents qu'il demande sont consultables, ce qui n'est pas toujours le cas bien entendu, mais aujourd'hui je pense que les gens commencent à découvrir qu'il existe des archives. Au moment des Journées Portes Ouvertes, vous avez, ça je me rappelle, l'année dernière ça a été phénoménal, vous avez des foules qui envahissent les grands dépôts rue des Francs-Bourgeois.
Oui, c'est plein toute la journée, il y a des queues immenses qui vont jusqu'à la rue des Francs-Bourgeois, et même à Pierrefitte nous avons ouvert le samedi après-midi des Journées européennes du patrimoine et on a eu 500 visiteurs en 3 heures de temps.
Notamment des voisins sans doute qui doivent vouloir voir comment c'est à l'intérieur et comment ça se passe. J'imagine que la consultation va être très high-tech sans doute maintenant. Ça va être comme à la Bibliothèque nationale de France, on va avoir des écrans, des petits clignotants, tout ça va être très...
Venez voir.
Je ne connais pas, moi, je ne suis pas allé.
Mais c'est vrai.
Je vais essayer. Je vais essayer de profiter du temps de cette période d'ouverture des archives, moi aussi. Tout le détail, en tout cas, de ces expositions, de ces concerts, de ces spectacles et de ces projections dont vous nous parlez, tout le détail se trouve sur le site www.archivesnationales.culture.gouv.fr. /AN, c'est pas très évident ce que je vous dis là, mais à mon avis, si vous tapez Archives Nationales et même encore plus facilement Pierrefitte avec 2 T, vous allez très facilement tomber sur ce programme. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ces archives, des trésors qu'elles contiennent et des émotions qu'elles réservent à ceux qui ont la chance de pouvoir y travailler tous les jours avec le soutien de toutes vos équipes, parce qu'il faut dire que vraiment vos archivistes sont des gens dévoués, sympathiques et ouverts. Voilà, il fallait le dire. Ce n'est pas parce que nous sommes en partenariat avec vous, je le dis, c'est parce que c'est la vérité. Merci beaucoup à vous trois d'être venus nous rendre visite.